avec Caroline Saint-Hilaire et Antoine Robitaille. Bonjour.
Bonjour.
Hey, bonjour.
Bon, alors, on commence là, drette là, parce qu'il paraît que c'était pas joli ce matin, l'Assemblée nationale.
Ben, c'était intéressant et c'était un feu roulant d'abord de conférence de presse. Puis c'était le lendemain de la fameuse conférence de presse du premier ministre où certains ont dit, je pense à Marie Montpetit, que c'était une conférence de presse alarmiste. Hausse de ton du premier ministre, donc ça va pas du tout, risque grave de reconfinement peut-être total ou du moins partiel. Et il faut que les Québécois prennent conscience du sérieux de la situation. Et dans ce contexte-là, les libéraux et péquistes, leur réaction, ça a été de dire, ben OK, mais sur quoi se base le premier ministre? Est-ce qu'il y a des données? Est-ce qu'il y a des analyses épidémiologiques? Et on aimerait les voir. Et c'est ce que d'abord Pascal Bérubé est venu dire ce matin. Puis ensuite, je dirais plus fortement et avec plus d'insistance encore, Marie Montpetit du Parti libéral du Québec. D'ailleurs, je l'ai reçue à la hausse sur la colline, là, puis elle explique pourquoi. Parce que au départ, moi, quand je l'écoutais, Marie Montpetit, je me suis dit, coudonc, elle fait pas confiance à François Legault. Mmh. Elle dit, tu sais, montrez-nous sur quoi vous vous basez pour affirmer une telle chose. Elle dit, oui, je fais confiance. Ben là, si vous faites confiance, pourquoi? Ben là, elle dit, il faut avoir de la transparence en situation de crise et exposer tout. Et là, pour les codes de couleur, mais aussi pour les scénarios épidémiologiques, ben c'est sorti sur Twitter ce que le gouvernement avait en main. Pour les codes de couleur, c'est Patrick Derry là qui est très très actif sur Twitter, analyse la situation depuis le début de la pandémie, se pogne aussi avec le gouvernement souvent, et lui il a exposé les fameux codes de couleur et surtout les explications qui sont censées venir avec ce code là. Hein? Et on le sait, hier et avant-hier, les oppositions disaient, mais coudonc, ces codes de couleur-là, ça veut rien dire. Ce matin, il y avait Pascal Bérubé qui disait, du PQ, qui disait, on dirait que c'est juste le degré d'inquiétude du gouvernement. Il n'y a rien rattaché à ça.
Attendez, là, Caroline, est-ce que je me trompe, mais le code des couleurs là amène des consignes différentes. Là. Si tu tombes à l'orange, là, on va arrêter les rassemblements, il va avoir des conséquences. C'est-à-dire, pourquoi, à quoi ça sert, ça, ce niaisage politique-là?
Mais à partir de quand tu tombes dans le code de couleur, c'est imprécis. Oui, il y a quelques mesures qui sont exposées, comme tu l'as dit, pour chaque code de couleur, mais c'est très, très général. Ça demeure, on voudrait plus de précision.
Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des chiffres exacts. À partir de 343, il y a telle politique du gouvernement qui va s'appliquer. On est en pleine pandémie. Tout le monde cherche la façon de réagir puis de contrôler cette patente-là.
Caroline. Il y a une affaire, par exemple, Benoît puis Antoine, parce que quand M. Dubé, ministre de la Santé, dit, on va s'en venir avec des précisions, et c'est un peu ça qui fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, donc il y a des choses pas claires. Tout le monde convient que on est en pandémie, puis que oui, il y a des fois des ajustements, mais le problème, c'est que c'est pas clair à quel moment exactement on franchit d'une couleur à l'autre. On comprend très bien que quand on est rendu en jaune, en orange, en rouge, je veux dire, il y a une gradation, mais à quel moment on devient orange, à quel moment on devient rouge,
quand est-ce qu'on
c'est
bascule,
cette explication-là
c'est
qui est pas claire.
Mais est-ce que c'est pas le nombre de cas répertoriés par la santé publique dans chaque région qui détermine la couleur?
Ça dépend des hospitalisations. Ça dépend
des morts,
des décès, ça dépend effectivement du dépistage. Donc, il y a toutes sortes de facteurs. Puis c'est ça que le gouvernement réplique. Il dit, écoutez, c'est pas simple. Puis ça nous prend aussi, puis ça, le premier ministre l'a dit dans sa conférence de presse avant la période de questions, ça nous prend une certaine marge de manœuvre. Une marge de manœuvre pour vraiment prendre en compte et bien comprendre la situation d'une région en particulier.
Est-ce que je peux poser la question très simple? Qu'est-ce que les oppositions proposent? Parce que moi, je comprends qu'on pose des questions, puis c'est simple, c'est en démocratie, puis il faut le faire.
Mais qu'est-ce que... C'est pas mal ça que tu fais toi-même.
Non. Mais moi, je t'assis sur mes fesses. Mais qu'est-ce que les oppositions proposent là, pour aider? Parce que c'est pas un truc partisan. C'est une pandémie. Tout le monde est atteint. Que ce soit libéral, péquiste, Québec solidaire, caquiste, ça change rien. Le virus ne voit pas la couleur du parti.
Oui, mais Benoît, justement, tu le dis, et c'est probablement là où le gouvernement, moi, je trouve que depuis hier, manque à son devoir, justement, d'être lui aussi non-partisan. Pourquoi le ministre de la Santé n'a pas rencontré ses homologues en disant, écoutez, je vous présente le code de couleur, suivez-moi, je vous rencontre, je vous implique dans le processus.
Je suis d'accord.
Et c'est tout ça qui manque. Je veux dire, on peut bien reprocher à l'opposition de poser des questions puis faire de la politique.
Non.
Mais le gouvernement fait la même chose. Parlez-vous à un moment donné si vous voulez pas qu'on réagisse trop fortement.
Ça, c'est le message qu'on envoie à l'Assemblée nationale en entier, à tous les députés. Parlez-vous, soyez là pour le bien commun, pour la société québécoise, puis arrêtez de nous faire chier avec votre petite politique partisane.
Marie Montpetit soulignait qu'hier, on parlait de situations qui critiques, alarmantes, tout ça. Mais le seul geste qu'on a vraiment annoncé hier, c'est qu'on interdit la bouffe dans les bars après minuit. Alors, est-ce qu'il y a-t-il moyen de faire plus? Puis là, j'ai demandé à Marie Montpetit en entrevue, qu'est-ce que vous feriez de plus, vous? Mm-hmm. Il y a toute une série de mesures graduelles. Est-ce qu'on pourrait pas couper l'alcool à partir d'une certaine heure? La fermeture des bars doit être envisagée aussi.
Mais c'est ce qu'on fait à partir de minuit.
Oui, ben oui, je sais. Mais elle a dit, est-ce qu'on peut commencer plus tôt? Est-ce qu'il n'y a pas aussi...
Elle veut qu'à l'heure, 9h15? Mais c'est à quoi ça rime tout ça, là? Tu sais, qu'est-ce qu'elle veut, Marie-Montpetit? Qu'est-ce qu'elle veut,
à la gestion de la pandémie.
Ben oui, mais tout le monde veut la même affaire.
On a eu le pire bilan. Le gouvernement nous a dit on a appris à construire un avion en plein vol pendant la première vague. Que la deuxième commence, là.
Ouais. Hein? Moi, j'ai parlé à quelqu'un de la Colombie-Britannique.
Il faudrait peut-être la deuxième commence, le premier ministre puis le gouvernement devrait être plus près.
Ouais.
C'est ça qu'ils disent aussi.
Oui, oui, plus près, puis ça dénote aussi les erreurs qu'on a commises dans les CHSLD. On va pas recommencer. Mais là, est-ce qu'on a appris de nos erreurs?
Ben, c'est ça. Ils se le demandent.
Ouais.
Les oppositions.
Caroline, qu'est-ce qu'on fait avec les manifestations anti-masques? Toi qui es parfois assez strict, là.
Ah, moi, je les tolère plus. Moi, je les tolère plus. Puis je sais que en même temps, on dit ça, puis c'est comme si on va provoquer probablement quelque chose qui va confirmer les anti-masques comme quoi que c'est tout un complot, là. Mais puis en même temps, le problème, c'est que hier, François Legault, quand on lui a posé la question sur est-ce qu'il y a des cas reliés aux anti-masques, il semblait dire que non. Puis l'autre affaire, c'est ça. Comment ça se fait que les épluchettes de blé d'Inde, c'est plus problématique qu'une manifestation dehors anti-masque? Moi, j'ai pas compris encore
Il insiste sur dans les maisons. Dans les maisons. Oui, il a cité les épluchettes de blé d'Inde hier, mais en conférence de presse aujourd'hui, puis à la période de questions, il a vraiment dit le problème, c'est dans les maisons. Puis ça, c'est difficile à contrôler.
Les nouveaux parties, là. On délaisse les bars, mais on se ramasse chez le monde. Mais là, on se contamine dans les maisons parce qu'on est en.
Puis là, tout tombe. Il n'y a plus de règles.
Si on permet les manifestations anti-masques, à la limite, moi, je voudrais une présence policière, puis que s'il y a non-respect des règles, on donne des contraventions. Et j'espère qu'il y a quelqu'un de la santé publique qui tient un registre de. Je veux pas les noms, mais si quelqu'un a manifesté comme quoi que ça existe pas, la COVID, j'aimerais ça savoir si à un moment donné, il y en a un ceux-là qui est testé positif.
Ouais, et je vous réfère à la chronique de Mario Dumont sur la loi 18.
Excellent.
Elle est très bonne. Puis si toi tu fais la promotion de l'anti-masque, de pas porter le masque, de t'en sacrer, puis tu tombes malade, le gros, tu vas payer tes frais médicaux.
Mais tu sais, hier, Pascal Bérubé, en entrevue à La Haut sur la Colline, a vraiment dit il faudrait songer à les interdire. Aujourd'hui, il a comme mis de l'eau dans son vin. On peut écouter sa déclaration de ce matin.
Avec un point d'interrogation, si la situation était en situation de pandémie, la situation mettait en danger d'abord les participants et d'autres. Alors, c'est le sens de ce que je vous ai dit, je crois.
En 2012, là, vous luttiez contre les lois qui restreignaient les manifestations. Là, est-ce que c'est pas contradictoire aujourd'hui?
Contexte différent. C'est un contexte sanitaire. C'est pas la même chose. En 2012, cet enjeu-là, il n'y a pas de journaliste qui portait de masque devant moi, puis j'en portais pas devant vous non plus. Alors, les choses ont changé.
Puis là, en plus, les gens qui sont dans la rue, ils sont contre ces mesures-là. Ils manifestent précisément contre ces mesures-là. Donc, c'est ceux qui suivront pas ces mesures-là. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un problème, je trouve, quasiment inextricable.
Okay,
le premier ministre est vraiment mal à l'aise. Je sais pas si tu l'as entendu tantôt. Il disait, c'est pas le principal problème de la contamination. On est dans une société de droit. Je veux pas faire des martyrs aussi. Il l'a dit. Mais il dit, on n'exclut rien.
J'étais un peu occupé tantôt, Antoine. Un mot sur les hélicoptères parce qu'on va passer à Ottawa.
Oui, ben, on sait que François Legault veut muser sur le fabriquer au Québec pour la deuxième moitié de son mandat. Il l'a dit. Ben là, l'État a acheté un hélicoptère assemblé en Europe plutôt que choisir un appareil ici. Alors, il y a eu beaucoup de questions là-dessus ce matin. Réponse de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie. Ben, c'était une situation d'urgence. C'est une exception. On fera pas ça. On a rassuré les gens de bel hélicoptère qu'on allait désormais acheter, évidemment privilégié. Mais là, on était pris. On pouvait pas faire assembler un hélicoptère de ce type-là. Là. Mmh. Ça aurait été compliqué et long. Je tiens à dire que Carlos Letao s'est moqué de l'hélicoptère allemand. Hein, c'est un hélicoptère allemand. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mot. Lui-même s'était acheté des espadrilles allemandes pour son budget de 2014.
Oh, ça le rattrape.
Ça le rattrape.
Ouais. Vous en avez du temps à perdre à Québec?
Oui. Mais peut-être qu'un hélicoptère, ça ne rentre pas dans le panier bleu. C'est peut-être trop gros. Je ne sais pas. À Ottawa, il y a un groupe de travail qui demande des milliards de dollars à Ottawa. Caroline, qui ça?
Écoute, je sens que je vais te faire plaisir, Benoît, peut-être un peu Antoine aussi, parce qu'en avril, vous vous souvenez, ben peut-être pas là, Justin Trudeau avait dit que il comptait sur pour la relance économique, il voulait faire un virage vert, hein, il comptait sur un développement durable puis tout ça. Et là, on apprenait ce matin dans le Globe and Mail qu'il y a un task force, qui est un groupe de travail, en fait, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, pour pas dire des milliards, à Justin Trudeau, pour justement les accompagner dans ce virage vert-là. Donc, il demande beaucoup d'argent pour la relance verte. Et devinez qui fait partie de ce groupe-là. Gérald Botts. Écoute, l'ami de Justin Trudeau et l'ancien chef de cabinet.
Il n'y a pas de gêne.
Je pensais qu'il faisait pitié à maison, il avait perdu sa job, il avait de la peine puis tout ça.
Ben oui.
Mais non, il n'y a pas de peine. Il y a un gros, gros défi. Fait qu'il demande beaucoup, beaucoup d'argent. Je trouve ça très intéressant. C'est le fun de quelqu'un qui se recycle bien comme ça.
C'était
recycle,
cœur, hein?
Environnement.
Ouais.
Ah, t'as compris,
mais, non, bon, mais, okay. Mais, ouais, c'est le même gouvernement qui avait promis 2 milliards d'arbres d'ici 2030.
Oui,
ben mais Gérald Botts, qui était le conseiller, l'ami personnel de Justin Trudeau, est devenu lobbyiste?
Ben, pas lobbyiste. Il est là pour créer une relance verte. Benoît, voyons.
Ben,
mais je trouvais ça drôle. Mais en fait, je veux faire.
Est-ce que WeCharity est impliqué?
Tant qu'à y être. Non, il marche plus au Canada, WeCharity. C'est pas assez.
Tant qu'à y être.
C'est pas assez payé.
Mais donc, je trouvais ça cocasse, disons ça comme ça. En même temps, on peut pas empêcher quelqu'un de se recycler, de faire autre chose dans la vie.
Ben non.
Mais disons qu'il y a des choses plus faciles que d'autres. Et donc, on verra bien, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, Mme Freeland, quand elle a annoncé justement que Donald Trump s'écrasait face au Canada parce qu'il avait peur de Mme Freeland ou des tarifs douaniers, ben Mme Freeland a aussi dit qu'elle rencontrait beaucoup de gens pour son budget et qu'elle aurait des propositions à faire au niveau de la relance économique et qu'elle y voyait justement un intérêt de faire cette relance verte-là et elle consultait, elle, de son côté, plein de gens, dont Paul Martin, écoute, fait que c'est bon, ça jase entre eux, c'est le fun.
De la grande sagesse. Puis il y a aussi tout le Bloc québécois qui est en isolement, là.
Ben oui, puis là, on vient d'apprendre aussi que Erin O'Toole aussi se placerait en isolement. Ça vient juste de tomber. Mon Dieu, je répète trois fois le même mot. ça vient juste de tomber. Donc, Monsieur O'Toole qui se place en isolement parce que il aurait voyagé avec quelqu'un de son personnel qui aurait été testé positif à la COVID. Donc, après le Bloc, Monsieur O'Toole aussi, bon, c'est encore de manière préventive, mais quand même, ça pose beaucoup de questions parce que le Parlement doit siéger la semaine prochaine et les conservateurs se refusaient l'idée de Pablo Rodriguez de pouvoir voter à distance, tout ça. Et là, ben, il va peut-être manquer pas mal de monde finalement à la Chambre des communes. Alors peut-être qu'il y aura une opportunité d'être un peu créatif parce que sinon, Justin Trudeau va jaser tout seul au Parlement puis on veut pas ça, on veut une opposition. Alors peut-être que les conservateurs vont se ranger derrière le Bloc québécois et la NPD pour être un peu créatif au niveau de la façon de faire des délibérations à la Chambre. Chambre des communes. On sait que c'est très protocolaire à la Chambre des communes. On a toujours tenu à ce que le vote, on puisse voir les gens qui se lèvent voter. Il y a quelque chose de très, très British dans tout ça, mais peut-être que là, avec la pandémie, on pourrait revoir nos façons de faire.
Le pire, c'est que personne s'est rendu compte qu'Andrew Scheer est en isolement depuis 3 ans. Mais ça. c'est une autre affaire. Ouais, OK. Bon, mais c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, là?
Dommage.
Non, vous avez l'occasion d'en rajouter. Il y a ça, les Zanetti, qu'on n'a pas couvert, là, mais tout le monde dit un peu la même affaire, là, à Québec, là.
Ben, lui, il dit que pour régler la question avec les complotistes, ça prend du dialogue.
Bon, ben, ça règle ça pour la journée. Parfait. Merci, Caroline Saint-Hilaire et Antoine Robitaille. Continuons à nous parler, à échanger, à communiquer.
Oui.
OK, c'est assez. Allez-vous-en chez vous. Bye.
À demain.